filet vers la rondelle. Et là, ça va créer cette ouverture en 2 contre 1. Horvat avec Palmieri. Horvat, le tir! Oh! Ce sera une autre leçon à mettre dans le cahier pour Lane Hudson en prolongation.
Je sais exactement où est-ce que je m'en vais avec ma question du jour aujourd'hui, mais ça va venir dans environ une quinzaine de minutes. On y va à New York tout de suite, parce que Anthony Martino, qui plus souvent qu'autrement va être avec nous les mercredis et les vendredis vers 10h15, il y a des exceptions. Aujourd'hui, il y en est un, parce que son vol part de New York dans les prochaines 30 minutes. Anthony Martino de TVA Sports, comment vas-tu?
Salut mon chum, ça va très bien. Salut à tout le monde qui nous écoute aussi.
Salut Anthony. Éric Bélanger va être avec moi comme il l'est à tous les lundis et tous les vendredis dans notre segment Abs Radio. Avec Éric, je veux faire quelque chose un peu différent aujourd'hui parce que j'ai vu ta chronique hier soir, puis j'aimerais peut-être parler de points positifs du Canadien aujourd'hui. Peut-être parler des points négatifs avec Éric un peu plus tard. Si tu mentionnes un point négatif, c'est correct, c'est pas la fin du monde. Mais toi, tu as parlé de points positifs hier soir après cette défaite-là.
Oui, oui, parce que au-delà du résultat, il y a du positif à retenir du match. Écoute, tu t'en vas jouer à New York contre les Islanders, qui est une équipe, n'ayons pas peur des mots, Tony, là, qui est somnifère, une équipe qui est maître dans l'art d'étouffer la magie. C'est le genre d'équipe que t'invites pas à fête à ton petit garçon parce que ça devient plate en tabarouette. Mais tu sais, le Canadien conclut quand même ce match-là avec son plus haut total de tirs au but de la saison, 41, contre une formation qui en accorde habituellement en moyenne 28, surtout à la maison où cette équipe-là est plutôt avare défensivement. T'sais, le match s'est joué sur des détails. Tu as parlé des gardiens de but. Je pense que le Canadien s'est fait jouer un tour qu'il a joué à plusieurs reprises à l'époque Carey Price. Ilya Sorokin a fait de gros arrêts. Samuel Montembeault n'a pas disputé sa meilleure partie. Mais de là à dire que Samuel Montembeault, ah, c'est un Chris Paille, on s'emporte très rapidement hein, à Montréal. T'sais, Sam, depuis le retour de la pause, c'était un vrai gardien numéro un, puis on était en voiture avec lui, puis là, ça fait deux matchs qui est coussi-coussa sur certains buts, puis là, ben là, le narratif revient. Ah, c'est un 1B ou un deuxième gardien, faut mettre Dobesch. Ouais. On peut-tu prendre un petit peu notre gaz égal, là? T'sais, on finira pas la saison avec Dobesch dans le but, dans une course en série. Montembeault, historiquement, après une mauvaise performance, revient fort. Puis hier, tu parles de points positifs, Tony, je retiens la performance du trio de Joshua Roy, encore une fois, qui est de plus en plus à l'aise, à mon avis. Puis le fait aussi que t'es réussi à revenir de l'arrière 1-3 contre les Islanders dans un match qui est très, très, très serré. Un match de série, somme toute. Alors, moi, je suis pas du tout... c'est plate, le revers, là, mais le Canadien se réveille quand même 2 points devant les Islanders, toujours en série, et 3 points seulement les séparent des Sénateurs d'Ottawa qui ont perdu hier une bataille contre l'Avalanche.
C'est drôle, là, parce qu'il y a quelques jours de ça, j'étais à Poche Bleue avec Max Lapierre, puis Pascal Leclerc, puis Jean Perron. Puis on parlait de Demidov, là, tu sais, si jamais il y a une chance de voir Demidov ici, si jamais le Canadien, ils connaissent ils vont en série, puis ils vont connaître, tu sais, un long route en série. Donc, on parlait que si jamais Demidov est là, il va jouer où exactement? T'sais? Puis Max Lapierre a dit, moi, je le mettrais sur le 4e trio avec Emmons puis Armia. Puis là, je prendrais Heinemann, puis je mettrais sur un autre trio. Puis moi, j'ai dit, mais non, mais moi, je le mettrais à la place de Joshua Roy, là, à côté de Laine puis Newhook, parce que Joshua Roy, à date, là, il n'a pas produit. Donc, Jean Perron dit, non, il faut que tu laisses Joshua Roy parce que tu ne peux pas briser la chimie de l'équipe. Mais moi, j'ai dit, mais tu brises pas la chimie de l'équipe, il n'a pas marqué, il n'a pas produit encore. C'est pas la fin du monde. Et là, il marque son premier but de la saison. Puis tout de suite, 2 secondes plus tard, je m'attendais à un message texto de Max Lapierre, puis arrivé sur WhatsApp pour dire Jean Perron avait raison. Non, mais je suis content pour lui parce que je pense qu'il a joué son meilleur match depuis le début de la saison, là, Joshua Roy, hier soir.
Ouais, puis au-delà du but qu'il a marqué, je trouve que l'unité en général, tu sais, Patrick Laine, souvent le trio qu'il occupe à 5-5 est encore une fois, n'ayons pas peur des mots, mais nuisible en territoire défensif. Mais là, on semble avoir trouvé une combinaison qui permet à Patrick de garder son style de jeu tout en étant efficace défensivement puis en provoquant des trucs offensivement. Tu sais, Joshua Roy, c'est pas étincelant depuis son rappel, mais c'est quand même un gars qui va pas te nuire en territoire défensif. Je vous rappelle qu'il a joué en désavantage numérique avec l'équipe Canada Junior. C'était extrêmement bien acquitté de sa tâche. Puis Alex Newhook, encore une fois, on en a parlé mercredi, mais le dynamisme de ce gars-là est encore plus évident au poste de joueur de centre. Puis il sert la cause de Patrick Laine en ce moment, Alex Newhook. Alors, tu sais, Joshua Roy, là, je fais un comparable, pas nécessairement en termes de style direct, là, mais en termes de situation. T'sais, Charles Ludon marquait sa part de but dans la Ligue américaine.
Ouais.
Mais quand tu arrives dans la Ligue nationale, tout le monde est capable de faire des feintes, de placer la rondelle dans le haut du filet. Puis il faut parfois que tu saches te reconvertir. Charles Ludon n'a jamais été en mesure de se reconvertir en joueur de troisième trio fiable. Lui a gardé son style, mais dans la Ligue nationale de hockey, malheureusement, il s'est fait supplanter par des joueurs qui lui étaient supérieurs. Joshua Roy, là, il pourrait réussir. C'est justement en conservant ses habiletés offensives, bien sûr, mais en étant fiable aussi sur le plan défensif. Parce que, tu sais, des gars top 6 AHL qui sont pas capables de répéter ça dans la Ligue nationale de hockey, il y en a des tonnes. Alors, ouais. Est-ce que Joshua Roy saura demeurer fiable défensivement assez pour conserver sa place dans la Ligue nationale? Parce que pour moi, Josh, c'est pas un top 6 dans une équipe championne
non.
offensivement. Mais c'est un gars qui peut avoir une utilité quand même, Tony.
Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai aimé sur le but, là, c'est qu'à un moment donné, là, il protège bien la rondelle en zone offensive, là, puis là, il envoie la rondelle encore à ligne bleue. Struble fait bien, là, lui, il met la rondelle sur le but. Mais tu sais, ses instincts offensifs de Joshua, il dit, je dois aller tout de suite au net. Il va au net, puis il va plus vite que Noah Dobson. Il a plus faim que Noah Dobson. Sa réaction avec ses mains sont plus vite que les mains de Noah Dobson. Il marque ce but-là, puis tu l'as vu, le soulagement, quand il a marqué... Puis il y avait de la haine. Puis c'est ça que des fois que tu arrives dans une autre ligue, là, t'as encore ton talent, mais là, tu joues avec des joueurs avec beaucoup de talent. Si t'as pas cette haine-là, puis cette soif-là de vouloir la rondelle, de vouloir marquer, ça fait toute la différence. Hier, il l'avait. Puis je vais te dire quelque chose sur Newhook. Moi, j'ai toujours pensé que Newhook, sur une équipe championne qui va gagner la Coupe Stanley, c'est un joueur de troisième trio. Puis j'ai pas changé d'avis là-dessus. Et il a déjà gagné un Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado ou comme troisième joueur de centre. Par contre, ça restait encore à déterminer si Newhook était un centre ou un ailier. Moi, je pensais qu'il était plutôt un ailier pour une raison, c'est qu'il y en arrache dans les mises en jeu. Hier, là, mon chum, il était 88% dans les mises en jeu. Je m'en souviens pas cette année d'un joueur du Canadien ayant pris minimum 8 mises en jeu, d'avoir un taux d'efficacité de 88% ou plus. Il est excellent hier, Newhook. 4 lancés, un tir bloqué. Il a été excellent pour les 14 minutes et demie qu'il a joué, Anthony Newhook, hier.
Ben oui. Honnêtement, moi, le ratio d'efficacité sur les mises en jeu, c'est pas quelque chose qui m'inquiète à court terme, parce que s'il y a une affaire qui travaille bien au hockey professionnel, c'est ça. T'sais, si tu demandes à un gars de 6 pieds 4, 230 livres, de devenir un patineur fluide, là, ça peut être compliqué. Mais si tu demandes à un joueur de travailler son efficacité sur les mises en jeu, c'est une question de rigueur, c'est une question de répétition. Puis Alex Newhook est un gars, honnêtement, qui est extrêmement dédié à la tâche, puis qui est capable de gagner des mises en jeu. Hier, il l'a prouvé. Puis honnêtement, tu sais, il n'y a pas d'hasard hein, dans la vie. On parle de son dynamisme sur la glace. Moi, je veux juste vous confier un petit truc, là, c'est j'ai l'occasion de voir les joueurs du Canadien à l'échauffement avant qu'ils sautent sur la patinoire. Puis Alex Newhook a sa petite routine bien à lui. Pendant que les joueurs jouent au ballon puis rigolent un petit peu entre eux autres, là, Newhook est seul sur son île, dans son camp, puis il s'isole, lui. Puis c'est des sprints, puis c'est des changements de direction, puis c'est des sauts, puis c'est des... C'est très impressionnant de le voir s'échauffer avant que les joueurs aient sa vie dans le vestiaire. Puis, comme je te dis, il est tout seul à faire ça. Là. Les gars s'amusent, mais Newhook, explosif sur la glace, mais c'est des affaires qui travaillent en coulisses. Il n'y a pas d'hasard.
On va parler des points positifs. On s'est dit, là, Slavkovski, il n'a pas récolté de points hier. Mais moi, j'ai pas aimé le match de Slavkovski face aux Sénateurs d'Ottawa. Hier, là, j'ai trouvé qu'il était beaucoup meilleur.
Slavkovski a été efficace le long des rangs. Slavkovski a joué de la façon dont il doit jouer pour être efficace dans la Ligue nationale. Tu sais qu'on fut le match avec 4 mises en échec. Mais tu sais, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Là. Moi, globalement, je l'ai trouvé bon aussi, Yoann Slavkovski. selon moi, ça a été le meilleur joueur du trio. Hier, on n'a pas beaucoup vu contre Caulfield. C'est correct, les gars ne seront pas à leur meilleur pendant 82 matchs, mais Slafkovský, quand il joue comme ça, moi, j'ai pas de problème. Slafkovský, on le perd quand il essaie de se reconvertir en joueur de finesse, on est. Quand il essaie de jouer comme un gars de 5 pieds 10. Mais hier, Slafkovský a été bon. Je suis d'accord avec toi.
Mauvais jeu, interception de Lee, alors que Strobel veut réparer les choses dans l'enclave. Pajot rate sa passe. Et voilà l'interception de Brendan Gallagher, appuyé par Anderson. Gallagher le tire! Oh, quelle histoire, ma parole! Brendan Gallagher vient de créer l'égalité sur une échappée.
Hier, Brendan Gallagher a confié à tous les partisans des Canadiens de Montréal qu'il a perdu sa maman. Il y a quelques semaines de ça, quand le Canadien était à Calgary, il a joué tous les matchs durant ce temps-là. Et là, on a compris la signification de quand il a touché son cœur, quand il a marqué ce but-là contre les Sénateurs d'Ottawa dans un filet désert. Et là, hier, il marque un autre but. Puis Anthony, c'est quelque chose, c'est un revirement en zone neutre de Pajot. Riley qui tombe. Puis moi, je regarde le match, puis j'ai dit... C'est le revirement est causé par la mère de Gallagher. Puis Riley, il est tombé par terre parce que c'est la mère de Gallagher qui voulait que Brendan s'échappe. Puis le tir, là, c'est pas Brendan qui l'a fait, là. C'est sa mère qui l'a fait, tu sais. C'était quelque chose, encore une fois, ces images-là. Puis quand il s'est adressé aux médias hier, là, quel courage, là.
Tu sais, il y a des choses qui vont bien au-delà du sport. Puis c'est des moments que tu n'oublies pas en tant que journaliste. Moi, plus tard, je vais parler de ce point de presse-là de Brendan Gallagher, puis je vais pouvoir dire j'y étais. Puis je suis content d'y avoir été parce que c'est un beau moment. Il parlait avec son cœur, puis c'est tout tourné. Ça nous rappelle que des fois, on voit des gens, on se promène dans la rue, puis on parle à nos amis ou à des gens qu'on connaît pas trop, puis on leur demande comment ça va. Puis les gens te répondent ça va bien. C'est une façade. On sait jamais vraiment ce qui se passe dans la vie des gens. Brendan Gallagher a disputé les 5 matchs suivants le décès de sa maman. On le voyait dans le vestiaire, il n'y a rien qui paraissait. On le voyait sur la patinoire, il n'y a rien qui paraissait. Mais à l'intérieur, le gars vivait la plus grande épreuve de toute sa vie. C'est bon de se rappeler de ce genre de truc-là des fois. Puis tu sais, si on avait besoin d'un autre exemple, moi j'en avais pas besoin, mais si certaines personnes avaient besoin d'un autre exemple prouvant l'aspect guerrier de Brendan Gallagher, ben on l'a, tu sais. T'as des gars qui refusent de jouer des matchs parce qu'ils ont un bleu sur la cheville. Puis t'en as d'autres qui disputent des matchs de hockey à fond la caisse malgré le décès de leur maman. Puis c'est ça, Brendan Gallagher. Puis hier, de le voir marquer ce but-là, c'est fantastique. De la galerie de presse, on dit « no cheering on the press box », là, pas d'encouragement sur la galerie de presse. Je dis pas qu'on encourageait le Canadien hier, mais moi, je peux te dire que quand Brendan Gallagher a marqué, ben il y a eu une réaction sur la galerie de presse. On s'est regardé puis on s'est dit « tabarouette ». L'histoire s'écrit d'elle-même. Puis Brendan méritait ce but-là, honnêtement.
Cathy, via la messagerie texte, je pleure chaque fois que j'entends le but de Gallagher. Il a vraiment touché beaucoup de partisans. Hein?
Ben oui, parce que les gens se retrouvent, certaines personnes se retrouvent dans cette histoire-là. T'sais, on fait du sport, puis on est chanceux, Tony, de gagner notre vie en informant puis en divertissant les gens. On parle du Canadien de Montréal, on parle de hockey, on s'amuse dans le fond, mais au-delà de ça, il y a des gens qui vivent des épreuves à chaque jour. Puis les athlètes font pas exception. Alors, tu sais, les joueurs du Canadien, pour plusieurs personnes, c'est des exemples dans la société. Quand un des joueurs du Canadien de Montréal affirme haut et fort avoir perdu sa maman, puis nous explique comment il vit son deuil, ça parle à des gens, Tony. Puis c'est honnêtement le fait que Brendan ait accepté de venir nous rencontrer hier et nous en parler aussi ouvertement. Moi, je lui lève mon chapeau. Il y a plusieurs joueurs qui auraient dit « Écoute, non, moi, ça ne me tente pas, mais Brendan, c'est un vrai. » Puis Brendan mérite le respect de tout le monde.
Ouais.
Tout le monde.
Écoute, quand tu as des longues batailles contre le cancer comme ça, puis c'est stade 4, puis c'est cancer du cerveau, écoute, tu souffres tellement que tu ne veux jamais voir quelqu'un partir à un moment donné, tu sais. T'es un peu soulagé pour eux, là, parce que ils vont finalement pouvoir retrouver la paix.
Ouais, dans un sens, c'est un peu ça. Puis Brendan nous disait hier qu'il avait appris le diagnostic un peu après la belle run du Canadien en finale de la Coupe Stanley. Donc, ça faisait longtemps que sa maman se battait. Puis tu sais, il l'a dit lui-même, il préfère se concentrer sur les belles choses qu'elle lui a léguées, dont le courage, l'aspect compétiteur. Il dit, regarde, même mon père le dirait, tout ce que vous voyez de moi présentement, ça vient de ma maman. Alors c'est vraiment très beau. Il y a des, comme je te dis, ouais, il y a des choses qui vont au-delà du sport là. Puis hier, c'était ça, c'est exactement ça.
Anthony, en voyant qu'on parle des points positifs des Canadiens là, parce qu'il y en a des partisans qu'aujourd'hui là regardent ça puis se disent, ah, hier soir c'était un point perdu. Puis il y en a même peut-être qui vont être négatifs. Il y en a peut-être qui vont être pessimistes. Il y en a peut-être qui vont avoir peur que le Canadien échappe un place en série. Puis tu sais, ça peut être le cas parce que il reste encore beaucoup de hockey à jouer. Il reste 14 matchs. Moi, je dis ça par contre. Si on veut regarder les positifs, là, moi, j'ai dit, le mois de mars à date, ils ont battu deux fois les Sabres. Ils ont perdu contre les Oilers, 3-2 en prolongation. Ils ont perdu deux jours plus tard à Calgary, 1-0. Trois jours plus tard, ils battent les Canucks à Vancouver. Le lendemain, ils perdent à Seattle, quand? En prolongation. Là, ils battent la Floride 3-1. Ils battent les Sénateurs 6-3. Hier soir, là, ils ont perdu où? 4-3 en prolongation. Ils ont quatre défaites durant le mois de mars. OK? 5 victoires, 4 défaites. Les 4 sont par un but. Donc, ils sont là dans tous les matchs. Puis, dans 3 de ces 4 matchs-là, ils sont allés chercher un point dans 3 des 4 matchs parce qu'ils ont perdu en prolongation. Donc, Canadien, là, c'est fini le temps que le Canadien, là, il en donne 6, 7, 8, 9. C'est fini, là.
Ah oui. Ben, tu sais, encore là, moi, je me ramène à la vie en général. Il y a toujours des gens qui vont voir le verre à moitié vide, d'autres à moitié plein. Tu sais, on peut se dire que le Canadien se bat maintenant jusqu'à la fin, puis surtout se donne les moyens de se battre jusqu'à la fin. Puis ça donne quoi? Ça donne des points ici et là. Hier, regarde, si le Canadien revient pas dans ce match-là, même si le Canadien méritait la victoire hier, faut leur donner le crédit quand même d'être parvenu à faire 3-3 pour aller chercher ce point bonus-là. Parce que sinon, ce matin, tu te réveilles, puis le classement est pas pareil. Alors, on peut dire que le Canadien a perdu un point. Mais on peut dire aussi que le Canadien est allé en chercher un dans le contexte du match d'hier. Puis, à la fin de la saison, qui sait, c'est peut-être ce point-là, autant positivement que négativement, qui va faire la différence. Mais, tu sais, puis je sais pas si tu avais prévu m'en parler, mais tu sais, j'entends des gens peinturer les notions un petit peu dans le coin ce matin. J'ai de la misère, parce que je regarde la séquence.
Oui.
Puis t'es un gars affamé. Tu sais, Lane Hudson veut faire la différence offensivement.
Oui.
Lane Hudson, combien de fois il nous a fait bondir dans notre siège cette année en prenant des risques? Plusieurs fois. Puis Lane Hudson sait qu'il a les outils pour prendre ce genre de risque-là.
Oui.
Alors, il essaie quelque chose, il voit une ouverture, il s'en va dans la brèche qu'il voit devant lui, puis finalement, ça fonctionne pas. OK, mais 9 fois sur 10 avec Lane Hudson, ça fonctionne. On dirait quoi ce matin si ça avait fonctionné? Oh mon Dieu, le Calder, le Norris, Lane Hudson... Ça n'a pas marché hier, mais il a essayé. Puis c'est pour ça que Lane Hudson est là. Sinon, on aurait mis Arbert Jacquet ou Jaden Strobel sur la glace en prolongation si on avait voulu un gars conservateur. Puis on se plaignait quand, à une certaine époque, on commençait nos prolongations avec des gars défensifs. Là, Lane Hudson est là pour générer de l'attaque. C'est ce qu'il a essayé. Puis en passant, hier, le but des Islanders est causé par une mésentente entre Hudson et Lainé.
Mais oui, tu fais bien de souligner. Tu fais bien de souligner parce que après que on soutire la rondelle à Hudson, lui, il a son homme. Lui, il est sur D'Angelo, mais Lainé fonce sur le même gars.
Ben
donc,
oui,
c'est deux gars sur un gars, t'en as un autre qui est ouvert, puis ça donne un 2 contre 1 pour les Islanders. Moi, je suis content que tu te portes à la défense de Lane Hudson. Je vais te dire pourquoi. Parce que Lane Hudson, avant ce jeu-là, il avait joué tout un match, là, Lane Hudson. Là. Il avait 2 lancers au but. Il y avait 5 tentatives qui étaient bloquées. Il a raté un tir. Il y a 2 mises en échec. Il y a 2 tirs bloqués dans ce match-là. Il y a un fois, il a soutiré la rondelle à l'adversaire. Il était le deuxième joueur le plus utilisé pour le Canadien de Montréal en arrière derrière Mike Matheson. Et sur le jeu, Lane Hudson, son première intention, Anto, c'était qu'il voulait passer la rondelle à Suzuki, si je ne me trompe pas, mais on a coupé la ligne de passe. Donc lui, il se dit, OK, il essaie de couper la ligne de passe, je vais feinter ma passe alors, puis je vais y aller. Puis il va, il essaie quelque chose, ça a été bien joué par Sorokin, puis ça a été bien joué comme D'Angelo, mais comme tu dis, si Lainé ne fonce pas, ça reste un 2-on-2 et pas un 2-contre-1. Puis peut-être qu'il n'y a pas de but.
Non, exact, exact. Puis, c'est un peu ça. L'Innocent n'a pas disputé son meilleur match hier, globalement. On l'a déjà vu plus efficace avec la rondelle, mais globalement, ça reste quand même que ce gars-là essaie de provoquer des choses. Et il y a une raison pour laquelle il était sur la patinoire. Tu sais, comme je t'ai dit, là, ça se joue sur tellement de parfois sur un ou deux centimètres. Là. Ouais. Et puis tu le sais, Tony. Et puis les gens qui nous écoutent aussi connaissent ça. Là. Je veux dire, le gars a essayé quelque chose, ça n'a pas marché, mais sincèrement, là, ça ira pas dans le bac à expérience. C'est pas le genre de jeu où tu dis, hey, il va regarder ça puis il va dire, j'aurais dû faire ça. Mais non, il a essayé quelque chose offensivement puis ça n'a pas marché. Puis au prochain match, il va probablement réessayer la même chose puis ça va marcher.
Ouais.
C'est pas une erreur de l'innocent, ça, là. Fait que ce matin, j'ai un peu de difficulté avec, ça va dans le sac à expérience. Non.
Pis,
c'est pas comme quand il a laissé Montour le dépasser à la mise en jeu. Ça va dans le bac à expérience. Mais hier, c'est un affaire qui n'a pas fonctionné. C'est pas grave, parce que 9 fois sur 10, c'est réussi.
Anthony, je te laisse avec ça. Faut être honnête aussi, puis c'est pas parce que je veux lancer à Pierre à Patrick Laine un matin, là, parce que on l'a beaucoup louangé dernièrement, puis avec raison, mais c'est pas le meilleur patineur, c'est pas le meilleur cardio, c'est pas le meilleur joueur défensif, puis c'est pas le gars qui fait les meilleures lectures défensives aussi.
Non.
À 3 contre 3, c'est débattable là, s'il devrait être sur la glace. Là, puis encore une fois, c'est pas parce que je veux lui donner la faute, mais moi, Laine, qu'est-ce qu'il a fait hier? Ça m'a rappelé Austin Matthews qui a sauté sur Mitch Marner pour laisser Connor McDavid tout ça dans l'enclave, comprends-tu? C'était une mauvaise lecture de Austin Matthews, puis hier, c'était une mauvaise lecture de Laine aussi. Donc, je te dis pas que Lane Hudson, il a pas perdu la rondelle en prolongation à 3 contre 3. Oui, il l'a perdu, mais il l'a perdu où exactement? Il a perdu à 195 pieds du filet du Canadien, là.
En essayant quelque chose. Puis, tu sais, honnêtement, moi, je suis un fan de « utilisons les joueurs selon leurs forces ». Puis c'est comme ça qu'on maximise leur rendement. On connaît les forces de Patrick Laine. On les connaît. C'est un gars qui a un lancer foudroyant. Probablement l'un des meilleurs de la Ligue nationale. Non, assurément, faut utiliser le bon terme. Mais il faut connaître aussi les faiblesses des joueurs qu'on utilise. Puis Patrick Laine, tu viens de le mentionner à merveille, là. C'est pas un grand patineur. Puis défensivement, si t'as pas la rondelle, c'est pas le gars qui va te donner le meilleur rendement. Alors, est-ce que moi, je suis fan d'utiliser Patrick Laine à 3 contre 3? Absolument pas. Absolument pas. Parce qu'à la minute où tu perds la rondelle, tu sais que t'es vraiment plus dans le trouble que si tu utilises pas mal n'importe qui d'autre de l'équipe. Il faut que tu aies la rondelle. Puis à 3 contre 3, le jeu peut tellement changer rapidement que moi, tu sais, c'est un risque. Puis encore là, on pourrait dire, ouais, mais s'il avait marqué, oui, je comprends. Mais tu sais, au ratio risque versus bénéfice, là, je ne suis pas fan non plus de Patrick Laine en prolongation. Est-ce qu'il faut lui garrocher la pierre à 100% pour tout ce qui s'est passé hier? Absolument pas. Il a marqué en avantage numérique, mais encore là, il a marqué dans un contexte où on l'a bien utilisé selon ses forces.
Puis Anthony, on va se dire les vraies choses. Là. Le Canadien, hier soir, là, ils ont perdu parce que le gardien de but des Islanders, Sorokin, était bien meilleur que le gardien de but des Canadiens, Montembeault. Puis c'est arrivé souvent cette année que Montembeault était meilleur du gardien de but adverse. Mais depuis d'un match, il y en arrache. Ça veut pas dire qu'il est pourri. Moi, je vais dire ça, Anthony. Parce que je pense pas qu'un gardien de but qui connaît deux mauvais matchs, on peut dire qu'il est pourri. Puis on peut fermer les yeux sur le fait qu'il avait joué 7 ou 8 colossales avant ça, OK? Pour moi, Montembeault, il est fatigué. Lui, la pause durant le tournoi des Quatre Nations, il l'a pas eu. Les autres l'ont eu avec le Canadien, là, à part Armia puis Laine. Lui, il l'a pas eu. Suzuki l'a eu, Caulfield l'a eu, on va dire, mais non, il a pas joué. Il a l'air fatigué. Pour moi, il a l'air fatigué. C'est un gars qui a joué beaucoup de hockey cette saison. Puis je sais pas s'il est capable de jouer tous ces matchs-là. Pour moi, il a besoin de repos. Donc, si le Canadien revient avec Dobège samedi, Anthony, puis je sais pas s'ils vont revenir avec Dobège, je ne sais pas. C'est pas parce que Montembeault, il est pourri, c'est parce que je pense que Montembeault, il est fatigué, Anthony.
Écoute, c'est une hypothèse qui se vaut, Tony. Je vais te donner mon avis, puis Montembeault, présentement, le rôle qu'il a, c'est celui de numéro 1. Le Canadien se bat pour une place en série. Montembeault, en gardant un pace comme celui qu'il a en ce moment, s'approcherait du 60 matchs cette année. Puis c'est un nombre de matchs qui est disputé par les gardiens top de la Ligue nationale de hockey. Puis Montembeault a souvent prouvé cette année qu'il était capable d'être bon dans les matchs importants, notamment au Centre Bell un samedi soir. Moi, personnellement, je ne sais pas si c'est de la fatigue. Samuel,
il n'a jamais joué plus que 41 matchs dans une saison dans la Ligue nationale, Anthony. Jamais. Ouais, cette année, il en a joué déjà 10 de plus.
Je suis 100% d'accord, puis c'est des faits que tu m'amènes, puis tu as raison, mais il n'a jamais non plus joué une saison dans laquelle son équipe était dans une course aux séries jusqu'ici. T'sais, est-ce que tu veux Dobesch ou Montembeau contre McKinnon et Makar? Un samedi soir au Centre Bell. Moi, je pense que le Canadien va avoir beaucoup de difficultés à confier le filet à Dobesch. En tout cas, c'est ma perception.
On sait jamais, parce que dans la première semaine du mois de janvier, Dobesch a joué peut-être son meilleur match de la saison au Colorado.
Je suis d'accord avec toi.
On sait jamais.
Je suis d'accord avec toi, mais écoute, Montembeau, historiquement, après une mauvaise performance, sort fort. Mais écoute, est-ce que ce serait pertinent de lui donner une pause? Peut-être. Est-ce que c'est le meilleur moment samedi contre l'Avalanche? Je sais pas. Mais je comprends ton point, par exemple.
Anthony de la Grande Radio, pour finir une belle semaine de hockey. Merci beaucoup, puis bon vol à toi.
Merci, mon ami. Toujours un plaisir. À la semaine prochaine.
Be safe, mon ami, comme on dit en anglais. Anthony Martineau de TVA Sports.